Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 15 janvier 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La structure politique et sécuritaire d'Israël s'est effondrée le 7 octobre, a ponctué le ministre iranien des Affaires étrangères. Un destroyer américain a été visé par des missiles yéménites en mer Rouge. Et à Chypre, protestations contre une base aérienne britannique impliquée dans le conflit à Gaza et des attaques contre le Yémen. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, réaffirme que l'opération Tempête d'Al-Aqsa a fait effondrer la structure politique et sécuritaire d'Israël. Le plus haut diplomate iranien a déclaré dimanche 14 janvier que le monde s'est rendu compte que le seul à pouvoir détruire la structure politique et sécuritaire d'Israël était le Hamas et son opération Tempête d'Al-Aqsa, lancée le 7 octobre. Les États-Unis, le régime sioniste et certains pays occidentaux ont tenté de présenter l'opération du 7 octobre comme un acte terroriste. Ce n'est qu'une tentative qui a été déjouée par la diplomatie constructive de la résistance, a souligné Amir Abdollahian. Israël n'a atteint aucun de ses objectifs par ses attaques contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. A-t-il poursuivi, rappelant que les États-Unis avaient commis une grave erreur en fournissant un soutien massif à Israël. C'était une erreur de calcul totale de la part d'Israël et de ses alliés, qui pensaient pouvoir détruire le Hamas dans un court laps de temps. Israël a donc changé d'objectif après avoir échoué à vaincre le Hamas et mis à son ordre du jour la découverte de tunnels et la libération de prisonniers en recourant à la puissance militaire, a-t-il encore noté. Le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé qu'une fois de plus que les forces de la résistance dans la région agissent de manière indépendante et sur fond de leurs propres intérêts et ne reçoivent aucun ordre de l'Iran. Depuis le début du génocide du régime israélien à Gaza, la République islamique d'Iran a déclaré que la guerre n'était pas une solution et que la résistance agirait avec force, a déclaré Amir Abdollahian. La tempête d'Al-Aqsa était une opération menée par un mouvement de libération contre l'occupation d'un régime usurpateur et illégitime, a ponctué le ministre iranien des Affaires étrangères. Le régime sioniste a lancé une campagne militaire génocidaire dans la bande de Gaza le 7 octobre dernier. Guerre qui a déjà fait près de 24 000 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 60 000 blessés. Le commandement central américain a annoncé qu'un chasseur américain a abattu dimanche 14 janvier un missile de croisière anti-navire tiré par les forces armées yéménites sur le destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke USS Lebanon qui opérait dans le sud de la mer Rouge. L'incident s'est produit vers 16h45, heure de Sana, selon le CENTCOM, qui a publié la nouvelle dans un communiqué sur X. Le missile a été abattu à proximité de la côte de Daïda par des avions de combat américains. Aucun blessé ni dommage n'a été signalé. Ce n'est pas la première fois que le destroyer américain est impliqué dans une action militaire contre les forces yéménites. Le 23 décembre 2023, alors qu'il était stationné dans la mer Rouge, l'USS Lebon a intercepté et abattu 4 drones de combat yéménites qui se dirigeaient vers l'entité d'occupation israélienne, selon la chaîne Al-Mayadin. Il s'agit en outre de la deuxième attaque contre des navires dans la région par les forces d'Ansarallah depuis que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé une série de frappes aériennes sur des cibles d'Ansarallah au Yémen, ce qui a suscité des menaces de réponse fortes de la part de ce dernier. Le mouvement de résistance yéménite a promis de représailles aux frappes aériennes anglo-américaines. Ce dernier mois, en signe de soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, les combattants yéménites ont attaqué les cargos israéliens et se naviguant en direction des ports de la Palestine occupée dans l'océan Indien et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Les forces armées yéménites ont promis que tant que le régime israélien n'aura pas arrêté ses attaques contre la bande de Gaza, elles continueront d'attaquer ces navires. Le mouvement de résistance palestinien Hamas affirme que ses combattants ont détruit ou mis hors service des centaines de blindés de l'armée israélienne depuis le début de l'agression militaire du régime contre la bande de Gaza. Abu Obaida, le porte-parole des brigades al-Rassam, branche militaire du Hamas, a noté dimanche 14 janvier dans un communiqué qu'au cours de ces 100 jours, nous avons détruit ou mis hors service environ 1000 véhicules militaires de l'armée israélienne qui s'étaient infiltrés dans le nord, le sud et le centre de la bande de Gaza. Le régime sioniste a lancé une guerre génocidaire contre l'enclave palestinienne à la suite de l'opération Tempête Al-Aqsa menée par des combattants de résistance. L'agression israélienne a jusqu'à présent tué près de 24 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et laissé plus de 60 000 blessés. Le porte-parole d'Al-Rassam a souligné que ces brigades ont mené des centaines d'opérations militaires au cours des 100 derniers jours. La bataille contre les forces d'occupation s'étend de jour en jour. Elle brûle l'ennemi et tous ceux qui l'ont soutenu et aidé, a-t-il indiqué. Il a tourné en dérision les allégations du régime israélien concernant les gains remportés dans cette bataille. Les prétendus succès annoncés par l'ennemi concernant la prise de contrôle ou la destruction de ce qu'il appelle les dépôts d'armes, les plateformes de tir de missiles et les kilomètres de tunnels sont ridicules. Et le jour viendra où nous prouverons que ces déclarations sont fausses, a-t-il déclaré. Abu Obaida a également rejeté toute perspective de négociation avec le régime israélien avant un cessez-le-feu complet et permanent à Gaza. Les forces israéliennes ont tué au moins 5 Palestiniens, dont 3 adolescents, lors de violents raids en Cisjordanie occupée, dimanche 14 janvier. Les forces du régime sioniste ont attaqué des civils palestiniens dans 3 endroits en Cisjordanie. Au moins 5 Palestiniens ont été tués, a tourné appris de l'agence de presse palestinienne Wafa. Loyal Soufi, un adolescent de 14 ans, a été tué lors de l'assaut contre le camp de réfugiés d'Al Sultan au nord de la ville d'Ariha. Selon des sources médicales, la victime a été touchée à la poitrine. En effet, les troupes israéliennes avaient ouvert le feu à balles réelles sur les habitants du camp. Suleiman Mohamed Kanan, 17 ans, et Khaled Amer Midat, 16 ans, font aussi partie des victimes. Ils ont trouvé la mort à l'entrée nord de la ville d'Albira, près de Ramallah. Selon le ministère palestinien de la Santé, Suleiman a reçu une balle au cœur et Khaled a succombé à ses blessures dans un hôpital. Les forces du régime sioniste n'ont pas remis son corps à sa famille. Deux autres jeunes Palestiniens, Ahmed Moussa Mohamed Jabarin et Jalalissa Mohamed Jabarin, ont trouvé la mort près de la ville de Saïr, au nord-est de la ville d'Al-Khalil, en Cisjordanie. Ces nouveaux décès portent à 350 le nombre de Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie. Des centaines de manifestants ont protesté dimanche 14 janvier contre l'utilisation d'une base aérienne britannique à Chypre pour des activités militaires liées au conflit à Gaza. Le Conseil chypriote pour la paix, organisateur de l'événement, a déclaré qu'environ 500 personnes avaient marché jusqu'à la porte de la base aérienne d'Akrotiri à la périphérie de la ville portuaire méridionale de Limassol. Au cours de la manifestation, l'organisation a réitéré son appel à la fermeture immédiate des bases aériennes britanniques à Chypre, affirmant qu'elles représentaient un danger constant pour la sécurité du pays insulaire et de son peuple. Les manifestants ont brandi des banderoles dénonçant l'implication de la base dans le conflit de Gaza. Ils ont remis un message écrit à un officier britannique à l'entrée de la base, disant que le peuple chypriote ne voulait pas que son pays soit impliqué de quelque manière que ce soit dans le massacre sanglant qui a eu lieu dans la bande de Gaza, selon les médias locaux. Selon des informations, la base aérienne d'Akrotiri a été utilisée pour transférer du matériel militaire en Israël et 4 avions Typhon de la Royal Air Force ont décollé de la base dans la nuit de vendredi à samedi pour mener des attaques à la bombe contre les combattants d'Ansar Allah au Yémen, qui affirment soutenir le Hamas. La base aérienne d'Akrotiri, d'une superficie de près de 254 km², est l'une des deux bases militaires que le Royaume-Uni a conservées en tant que zone de souveraineté britannique lorsqu'il a accordé l'indépendance à Chypre en 1960, après 100 ans de règne colonial. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël n'a remporté aucune victoire, ni même une image de victoire. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïed Hassan Nasrallah, a prononcé le dimanche 14 janvier, dans l'après-midi, un discours à l'occasion de la commémoration du commandant martyr du Hezbollah, Wassam Assantawil, alias Hajjavad, et a passé en revue les derniers développements dans la région. Nous devons tous fournir les facteurs permettant d'être debout dans cette guerre, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, ajoutant « C'est la voix des commandants présents sur les champs de bataille. Hajjavad était l'un des commandants de la résistance en Syrie et dans la guerre contre Daesh. Nous sommes fiers de faire partie de cette guerre. » Et chaque jour, nous sommes plus confiants dans l'exactitude de notre position. Daesh représentait la plus grande menace, non seulement pour le gouvernement syrien, mais aussi pour le peuple de ce pays. Le groupe terroriste avait également commis le plus de meurtres en Irak. Créé par l'Amérique, le groupe terroriste a tué près d'une centaine de personnes près de la sépulture du feu général Rassem Soleimani en Iran. Il y a quelques jours, Daesh était également la plus grande menace pour le peuple libanais. Le secrétaire général du Hezbollah a ensuite évoqué la résistance depuis 100 jours de la population de Gaza à l'agression israélienne, la qualifiant de résistance légendaire. Israël est embourbé dans l'échec et dans un gouffre profond, comme le confirment les analystes. Et il n'a remporté aucune victoire, ni même une image. Au cours de ces 100 jours, qu'a-t-il réalisé à l'exception du meurtre brutal des femmes et des enfants? Israël n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, et les sionistes l'admettent. Israël n'a pas été en mesure de libérer ses prisonniers, de forcer la population de Gaza à se déplacer et de transformer cette zone en un lieu où les sionistes pourraient s'installer après l'occupation. Nasrallah a poursuivi. Israël n'admet pas le nombre élevé de ses victimes et censure sévèrement les statistiques. Plus de la moitié des sionistes sont traumatisés psychologiquement et ont besoin de soins. L'économie israélienne a également beaucoup souffert. Ce qui s'est passé dans la mer Rouge a porté un coup fatal à son économie. Le procès d'Israël devant la Cour internationale de justice à La Haye a terni son image et montré l'ampleur de l'effondrement moral de l'Occident et de l'Amérique qui soutiennent ce régime. Il est nécessaire de connaître l'ampleur des pertes de l'ennemi au cours de ces 100 jours, pour que tous les habitants de notre région sachent que le sang des enfants opprimés ne sera pas vain. Le secrétaire général du Hezbollah a ajouté que l'opinion publique israélienne avait changé après cette guerre et qu'elle n'avait plus d'espoir. Les sionistes exigent la démission du gouvernement de Netanyahou et la reprise des négociations pour la libération des prisonniers, même si cela se fait au prix de l'arrêt complet de la guerre ou de l'acceptation des conditions de la résistance palestinienne. Soulignant que l'attaque contre le Yémen était la folie de l'Amérique et de l'Angleterre, Saïd Hassan Nasrallah a fait remarquer. L'Amérique dit qu'elle ne cherche pas à étendre la guerre, mais elle le fait. C'est une folie. Si Biden et son entourage pensent pouvoir arrêter les Yéménites en mer Rouge, ils se trompent. Ils ne connaissent pas très bien le peuple, les dirigeants et l'histoire du Yémen. Déclarant que le régime sioniste avait peur de la guerre, Saïd Hassan Nasrallah a mis en garde. Nous soutenons Gaza et nous continuerons de le faire. L'attaque contre Gaza doit cesser.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 13 janvier 2024. Depuis Téhéran, capitale iranienne, Téhéran condamne les récentes attaques américano-britanniques contre les positions d'Ansarallah au Yémen. Téhéran a vivement condamné ces récentes attaques des États-Unis et de la Grande-Bretagne contre le Yémen qui font suite aux frappes yéménites menée par Ansarallah en soutien à la résistance des Palestiniens dans la bande de Gaza, victime d'une guerre génocidaire soutenue par Washington. On va s'intéresser à cette occasion à ces attaques américano-britanniques avec nos deux experts. Mais tout de suite, je vous propose un récit en images. On se retrouve tout de suite après pour saluer nos experts et entrer dans le vif du sujet.
Fermement condamné les attaques militaires américaines et britanniques contre le Yémen, les qualifiant d'actions arbitraires, de violations flagrantes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Yémen et de violations des lois internationales applicables. Les responsables d'Ansarallah au Yémen ont déclaré que des explosions avaient frappé les villes de Sanaa, Hudaïda, Saada et Damar tôt ce vendredi 12 janvier 2024. Un responsable américain a quant à lui annoncé que les attaques contre le Yémen avaient été menées par des avions, des navires et des sous-marins. En réaction, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a affirmé que les attaques arbitraires n'auront d'autre résultat que d'alimenter l'insécurité et l'instabilité dans la région. Ces attaques militaires s'inscrivent dans le cadre du soutien total des États-Unis et du Royaume-Uni aux crimes de guerre du régime sioniste contre la nation palestinienne et les citoyens opprimés de la bande de Gaza qui se trouvent sous un siège complet depuis 3 mois, a-t-il déclaré. Tandis que le régime sioniste poursuit ses attaques et ses crimes de guerre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, Washington et Londres tentent de détourner l'attention générale de ces crimes contre le peuple palestinien, a-t-il déclaré. Kanani a exprimé son inquiétude quant aux conséquences de telles attaques arbitraires sur la paix et la sécurité régionale et internationale, appelant la communauté internationale à empêcher, par des actions responsables, la propagation de la guerre, de l'instabilité et de l'insécurité dans la région. Le président américain Joe Biden a qualifié les frappes aériennes contre le Yémen d'actions défensives et a promis qu'il n'hésiterait pas à ordonner de nouvelles attaques si nécessaire. Ces attaques surviennent alors que 3 mois de campagne militaire féroce menée par le régime israélien contre la population assiégée de Gaza se heurte à la résistance héroïque des combattants palestiniens.
Voilà, j'ai le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Aïssar Midani, scientifique, analyste politique. Bonjour Aïssar, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Zahra, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à l'ensemble de l'équipe de Presse TV et à tous les téléspectateurs et à Monsieur Develay qui est votre invité.
Oui, nous avons immense plaisir de recevoir Maître Doblé. Arnaud Doblé, bonjour, bienvenue. Vous êtes juriste international et analyste politique. Ravi de vous retrouver.
Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe et bonjour à Issa Midali, bien sûr.
Voilà, il y a deux jours, plusieurs médias américains ont fait état des attaques qui ont impliqué des avions de combat et des missiles. Nous en avons vu des images. On commence par vous, Maître Doblé. Alors, le blocus maritime imposé par le Yémen en mer Rouge contre Israël et les navires destinés aux ports israéliens fait partie de l'un des rares gestes concrets visant à empêcher la machine de tuerie d'Israël contre les civils dans la bande de Gaza. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait une coalition contre le Yémen et sont intervenus militairement. À quoi visent ces attaques pour vous ?
Alors, d'abord, il est important de prendre en compte certains éléments qui doivent être intégrés avant de pouvoir répondre précisément à votre question. La première, c'est que la résistance yéménite, certains diront qu'il s'agit juste d'une faction ou d'autres diront même qu'il s'agit d'une organisation terroriste, sachant que Joe Biden lui-même a retiré de la liste en question le mouvement d'Ansarullah. Moi, je dirais que la résistance yéménite, de facto, est l'État légitime yéménite. Et donc, en tant qu'État légitime, si on s'en tient aux quatre critères de la Convention de Montevideo, contrôle d'au moins 75% du territoire, contrôle de la capitale, contrôle de ses frontières, c'est un État. C'est un État. Et donc, en tant qu'État, il montre, au travers de ses actions en mer Rouge, qu'il a agi de manière responsable en intervenant pour empêcher justement le génocide qui se passe à Gaza. Donc, en tant qu'État successeur à l'ancien État qui est le fantoche de Hadi, signataire de la Convention contre le génocide, il s'acquitte de ses responsabilités. Et c'est précisément pour ça qu'il est l'objet d'une agression maintenant unilatérale, on va le dire, sans autorisation expresse du Conseil de sécurité, et bien sûr, en complète contravention de cette exception, l'autre exception, à savoir l'article 51 de l'autodéfense, qui est l'argument retenu par Joe Biden et ses complices, qui ne tient pas la route, bien sûr. Donc, on est en présence d'une agression pure et simple. Et afin de punir l'État yéménite qui ne fait que respecter ses obligations au regard du droit international. Rappelons aussi le contexte de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité il y a trois jours de cela, résolution 27-22, qui essentiellement rétroactivement officialise l'existence de cette coalition, parce que la coalition avait été mise en place initialement par les États-Unis sans autorisation du Conseil de sécurité. Alors je m'étonne quand même qu'il y ait eu des abstentions portant sur l'adoption du texte, sachant que visiblement on ne pouvait qu'imaginer que cette coalition allait faire usage de la force, et un peu à l'instar de ce qu'on a pu voir en 2011 dans le cas de la Libye avec le langage de la résolution 1973 qui avait été interprétée par les forces otanesques pour renverser le gouvernement du colonel Kadhafi. Là, on s'aperçoit encore une fois que, alors qu'il n'y a pas de référence explicite faite à l'usage de la force en ce qui concerne cette coalition maritime, c'est pourtant ce qui a été, ce qui en a découlé. On aurait pu imaginer qu'avec ce précédent, la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et la République démocratique d'Algérie l'idée d'imposer certaines réservations, ou en tout cas de conditionner leur abstention, ou en tout cas peut-être leur accord, à l'intégration d'une clause qui aurait conditionné l'usage de la force à une résolution séparée. Ça n'a pas été le cas. Je m'en désole, ça a coûté la vie à au moins 5 personnes, que l'on sache, d'autres blessés, et avec le risque aussi que dans la mesure où ces avions ont bénéficié de l'espace aérien saoudien, ça peut à terme mettre en péril la trêve qui existe entre Riyad et Sanaa depuis avril 2022. Donc voilà, ma première impression.
Merci Arnaud. Madame Midani, alors plusieurs pays, suite à ces attaques, ont condamné fermement cette intervention militaire américano-britannique, dont notamment l'Iran. L'Iran qui a qualifié ces attaques d'actions arbitraires et de violations flagrantes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale du Yémen. Alors, comment réagissez-vous, comment interprétez-vous cette intervention militaire des États-Unis qui aura bien sûr des conséquences graves, comme en parlent les commentateurs?
Effectivement, alors cette intervention militaire qui arrive justement au presque centième jour de l'agression et du génocide israélien contre le peuple de Gaza vient marquer une phase et un pas plus important dans l'assistance et l'aide menée par les États-Unis à l'agression contre le peuple palestinien et à l'agression aussi contre le peuple yéménite. Effectivement, les Israéliens essuient des échecs et une faillite totale malgré toute l'aide américaine et occidentale, aussi bien dans les armes de haute précision et de haute au pouvoir à tuer. Donc entre les grosses bombes, etc., entre le fait que aussi des chars et des et ajouter à l'état de au siège total où on se resserre les taux sur le coup du peuple palestinien à Gaza. Et en refusant l'aide humanitaire, en refusant l'arrivée des vivres, etc. Bon, dans ce contexte, les États-Unis courent à la rescousse d'Israël. Il est clair que cette intervention est clairement pour soutenir l'État fantoche d'Israël et pour consolider son agression contre le peuple palestinien, alors que Israël est en grande difficulté face à aux protestations du monde entier, face aussi à cette attaque, en fait, cette plainte menée par l'Afrique du Sud pour génocide. Donc à la Cour de justice internationale, à la Cour internationale de justice, bien les États-Unis viennent maintenant intervenir personnellement, directement, contre toutes les forces de l'axe de la résistance, contre déjà le Yémen qui est partie prenante de l'axe de la résistance, qui affirme que de toute façon, c'est en soutien à la résistance palestinienne et contrairement à ce qui a été affirmé systématiquement par les Américains, disant que les Américains et d'ailleurs même le Conseil de sécurité, où ils disent que la navigation en mer Rouge est menacée, contrairement à cela, les Yéménites affirment que de toute façon la navigation en mer Rouge, elle est saine et sauve pour tous ceux qui, autres que tous les navires, qui arrivent à d'autres pays et ailleurs que dans l'état d'occupation israélien. Donc là, c'est vraiment clairement une volonté de consolider Israël. Il faut savoir aussi que cette action du Yémen en mer Rouge a fait s'écrouler très rapidement aussi l'économie israélienne, puisque beaucoup de navires et beaucoup de compagnies ont évité, commencent à éviter complètement de passer par la mer Rouge à destination, et que rien n'arrive à destination d'Israël ni en émanant d'Israël via la mer Rouge, ce qui est quelque chose de substantiel, une aide substantielle pour les Palestiniens et pour cesser, arriver à un cessez-le-feu et à un arrêt de l'agression israélienne à Gaza. Il faut dire que les Américains n'arrêtent pas de dire qu'ils ne veulent pas étendre la guerre, hein, alors qu'ils font tout à fait le contraire. Là, la question était simple, puisque les Yéménites affirment que aussitôt que l'agression contre Gaza s'arrêtera, ils ouvriront aussi toutes les possibilités en mer Rouge à tout le monde. Donc, il suffisait plutôt de commencer une agression sur un front supplémentaire pour les Américains, qui est le front yéménite. Ça aurait été beaucoup plus simple de pousser les Israéliens à arrêter l'agression contre Gaza et contre le peuple palestinien. Mais chose qui montre quand même qu'ils sont aussi de connivence dans cette agression, de manière évidente, hein, et de manière claire. Et ceci après la visite de Blinken dans la région, à plusieurs pays. Il faut rappeler quand même que c'est la cinquième ou la sixième visite, hein, depuis le 7 octobre, le début des hostilités israéliennes contre Gaza, et qu'à chaque fois, ils ont affirmé leur soutien, les États-Unis ont affirmé leur soutien indéfectible à Israël et à ses agressions dans la région.
Exactement. Monsieur Doblé, alors il faut rappeler et préciser que les forces yéménites, y compris celles d'Ansar Allah, se sont engagées à ne cibler que les navires affiliés à Israël dans le cadre de ce blocus maritime. Ils ont à plusieurs reprises déclaré qu'ils assurent la sécurité maritime dans la région. Pourtant, alors j'aimerais bien savoir que... ils ont également déclaré que cette attaque, cette intervention militaire contre le Yémen, finalement, profitera aux Yéménites toujours et aux Palestiniens. Pourquoi, d'après vous, cette attaque américaine contre le Yémen est-elle une grave erreur?
Vraisemblablement parce que Washington n'a pas notion de à qui ils ont affaire. Il faut rappeler pour tous les téléspectateurs et auditeurs que le Yémen martyr subit une guerre secrète essentiellement, mais extrêmement meurtrière, depuis 2015, lancée à l'initiative cachée des États-Unis en manipulant le prince héritier, et que jusqu'à présent, on a dénoté environ plus de 400 000 morts, que ce soit au travers du blocus, des bombardements, la famine et toute autre cause indirecte comme les infections. Donc, et que le Yémen a subi des bombardements massifs qui font que si les États-Unis pensent que cela va dissuader le peuple yéménite, et on l'a encore vu récemment à manière répétée, le soutien est massif au Yémen, à leurs frères palestiniens, je pense que Washington se fiche le proverbial coup dans l'œil, et qu'ils n'ont pas ils n'ont pas notion de ce dans quoi ils sont en train de s'ingérer, et ils sous-estiment gravement les capacités militaires de l'armée yéménite et des comités de soutien populaire.
Merci. Alors, c'est vrai que cette action et ce geste des Yéménites, un pays, comme vous voulez le dire, martyr, est vraiment louable pour défendre les Palestiniens assiégés dans la bande de Gaza, les Palestiniens martyrs. Madame Midani, dites-nous s'il vous plaît, alors pourquoi la défaite de cette faible, vraiment faible coalition contre le Yémen est-elle certaine? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les analystes politiques chevronnés.
Elle est inévitable parce que de toute façon, comme l'a dit M. Develay, de toute manière, le Yémen subit une agression quand même de l'ensemble de la coalition des États-Unis avec les pays, les mêmes pays d'ailleurs, mais avec en plus, il y avait la France et il y a l'Angleterre, bien sûr, Bahreïn. Il y avait l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui n'a pas fait la sourde oreille à l'appel des États-Unis. Mais en fait, c'est depuis 2015 qu'il y a un pilonnage systématique de l'ensemble du pays. Mais ce pays résiste. Hein, et il faut quand même rappeler historiquement, le Yémen a toujours été le cimetière de tous les envahisseurs. Et il n'a jamais pu être dominé par quelques forces colonial. Et donc, en plus, c'est un peuple qui est un peuple de combattants, mais en plus, il faut quand même voir les millions de personnes qui ont manifesté hier leur soutien à leur État dans la résistance à cette agression, d'une part, et dans le soutien à la résistance palestinienne. On voit à quel point cet État jouit du renfort et de l'appui de la population, d'une population toute combattante, d'une part, et d'autre part, des gens qui maîtrisent parfaitement la morphologie terrestre de leur pays, donc qui sont aussi toujours dans les montagnes, et alors que les Américains, c'est une armée régulière qui, de toute façon, se contente comme Israël exactement d'ailleurs, par des bombardements en tapis de bombes, mais qui n'osent absolument pas se confronter à la population en armes, mais qui payera aussi très cher parce qu'il y aura toujours des attentats et des actions contre leur base et contre leurs soldats, où qu'ils soient dans l'ensemble des pays du Golfe et partout. D'ailleurs, les Yéménites ont bien déclaré, dès à présent, en fait, tous les navires américains et britanniques, et en fait ceux de la coalition, et on estime que ce sont des véritables, de très bons objectifs pour nous et pour nos soldats. Donc, c'est sûr qu'ils n'arriveront pas à faire face, les Américains s'enlisent. S'enlisent dans les sables yéménites après les sables de Gaza. Et donc là, c'est absolument fatal pour la direction américaine qui va sur des élections. Donc Biden qui veut se présenter pour les élections aussi. Donc, après l'échec en Palestine et à Gaza, un deuxième échec au Yémen, je crois qu'il condamnera complètement sa politique, enfin, ou la politique de son parti. Mais aussi, il faut voir, en fait, par le soutien d'un chef d'État complètement en faillite, comme Netanyahou aussi, un soutien indéfectible à Israël, qui est en train de mener une guerre d'agression aussi et qui s'enlise, et où les schismes dans la population sont complètement de plus en plus grands. En fait, c'est quelqu'un qui est en faillite, qui va à la rescousse de l'État, d'un autre État en faillite. Alors, il faut voir que de toute façon, la défaite est assurée.
Merci beaucoup, Assar Medani, pour ces éclairages. Dernier mot, peut-être une minute, nous avons devant nous. Maître Doblé, s'il vous plaît, vous voulez dire quelque chose?
Oui, écoutez, Dr Medani a très bien résumé l'affaire. On a affaire à deux régimes naufragés qui se donnent chacun le baiser de la mort. Et on peut seulement espérer qu'ils ne vont pas mettre à feu et à sang toute la région, mais... en tous les cas, on sait que Joe Biden, c'est trois guerres en trois ans. En tout cas, si on s'en tient à la dernière opération militaire, et Trump lui-même, bon, bien sûr, comme ils sont en campagne électorale, l'a souligné en disant que voilà, maintenant, on se retrouve dans un conflit avec le Yémen, que l'autorisation de l'usage de la force militaire qui avait été à l'époque un peu, c'était cette couverture juridique qui leur permettait de contourner le Congrès n'est plus en place. Ce qui fait que maintenant même au sein même du Congrès, des voix s'élèvent pour critiquer la décision unilatérale de Biden. Et que dans ce contexte-là, effectivement, c'est difficile d'imaginer, alors que toutes les munitions ont été utilisées en Ukraine, un autre échec patent de l'administration Biden, que dans ce contexte-là, ils n'auront pas les moyens, même techniques. Ils sont en train de se ruiner et ils ne peuvent pas être au four et au moulin, excusez-moi l'expression, mais partant de là, c'est un désastre annoncé, un désastre de plus.
Exactement. C'est vrai que. Oui, c'est vrai qu'à la veille. Oui, merci Arnaud Doblet pour tous ces éclairages. Merci Madame Midani pour vos éclairages. Alors, c'est vrai qu'à la veille des élections américaines, Joe Biden doit payer un très lourd prix. Je vous remercie, amis téléspectateurs, pour votre fidélité d'avoir suivi notre émission. Au revoir, à la prochaine.
Voyage dans l'univers mystique de Mont Lavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. Tambour. Un enfant était chargé de jouer du tambour afin d'effrayer les corbeaux qui venaient picorer les graines. Et c'était par le son de son tambour que les graines étaient protégées des oiseaux. Or, un jour, le sultan Mahmoud arriva avec toute son armée et des milliers de soldats envahirent le village. Le sultan lui-même marchait en tête, juché sur son chameau qui portait deux grandes caisses de tambour. Quand il vit que ce chameau pénétrait dans son champ, l'enfant joua de son tambour pour le chasser. Un homme raisonnable vint à passer qui lui dit « Que ton tambourin est ridicule comparé aux énormes tambours que porte le chameau. Tu perds ton temps à faire du bruit car ce chameau est habitué à d'autres sons. » Pois chiches. Regarde et vois comme les pois chiches qui bouillent dans la marmite remontent à la surface lorsqu'ils sont vaincus. On les voit s'agiter sans cesse dans la marmite et ils se disent « Pourquoi nous a-t-on acheté? Pourquoi nous torturer en nous faisant ainsi bouillir ?» Et le cuisinier, tout en tournant sa louche dans la marmite, leur répond « Mon but est de vous faire cuire. Vous êtes crus et il faut que vous soyez cuit par le feu de la séparation afin que vous acquériez un goût. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous mêler à l'âme. Cette cuisson n'a pas pour but de vous torturer. Quand vous étiez dans le jardin, vous avez absorbé de l'eau et vous êtes devenu tout vert. Cette boisson que vous avez reçue et votre floraison, tout ceci était destiné au feu. » Les pois chiches répliquent. « S'il en est ainsi, ô maître, aide-nous afin que nous soyons bien buis. Dans ce bouillonnement où nous sommes, tu es notre architecte. Frappe sur notre tête avec ta louche, si c'est là une bonne chose. Frappe sur notre tête afin que nous ne soyons pas révoltés comme un éléphant qui rêve de l'Inde. Le cuisinier. Moi aussi, j'étais comme vous, un morceau de terre. Mais en combattant ce feu, j'ai pris de la valeur. Moi aussi, j'ai bouilli dans la marmite de ce monde et dans la marmite de mon cœur. C'est par ces deux cuissons que je me suis rapproché de la vraie signification. C'est ainsi que j'ai acquis un esprit. Moi, je suis devenu un esprit. Mais toi, il faut te cuire une fois de plus, si l'on veut que tu échappes à ton état animal. Demande plutôt à Dieu qu'il te fasse comprendre le sens de ses subtilités. La jument et son poulain. Une jument et son poulain buvaient ensemble dans l'abreuvoir. Soudain, le palefrenier se mit à siffler pour les en empêcher. Le poulain, effrayé par ce bruit, s'arrêta instantanément de boire. Mais sa mère lui dit : « Oh mon poulain, pourquoi t'arrêtes-tu de boire ?» Le poulain répondit : « Je suis effrayé par le bruit de ces gens qui sifflent. Mon cœur tremble de peur à l'idée qu'ils se mettent à crier tous ensemble. » La jument lui dit : « Le monde est ainsi fait. Chacun fait quelque chose. Oh mon enfant, fais ce que tu as à faire. Tresse ta barbe avant que l'on ne te la coupe. Le temps est limité et l'eau coule. Nourris ton âme avant d'en être séparé. Les paroles des hommes de Dieu sont une source de vie. Ô assoiffé ignorant, viens, même si tu ne vois pas le ruisseau, fais au moins comme ces aveugles qui jettent leur cruche à la rivière. » Un homme était tombé amoureux fou d'une femme, mais leur union était impossible. Ils se lamentaient jour et nuit, sans manger ni dormir. L'amour l'avait transformé en vagabond, et ses tourments étaient sans fin. Pourquoi l'amour se présente-t-il comme un véritable tueur au premier abord ? C'est pour que ceux qui ne sont pas vraiment amoureux puissent être distingués. Chaque fois que notre homme tentait de faire porter un message à sa bien-aimée, le porteur du message, sous l'empire de la jalousie, omettait de le remettre à sa destinataire. Il avait bien essayé d'attacher une lettre au cou d'un pigeon, mais la chaleur de ses mots avait brûlé les ailes de l'oiseau. Cette situation dura 7 ans. Sans cesse, ils rêvaient à l'instant de leur union. Le prophète a dit : « Si tu frappes, on t'ouvrira. » Et notre amoureux frappait à la porte de tout son cœur. Une nuit, alors qu'il était entré dans un jardin et qu'il se cachait pour ne pas se faire remarquer par le gardien, il rencontra sa bien-aimée. Il se mit alors à prier Dieu afin qu'il comble de faveur ce gardien qu'il avait été à rencontrer sa bien-aimée. Lorsque les jambes sont cassées, Dieu nous offre des ailes. Il peut même ouvrir une porte au fond d'un puits. Si tu regardes avec Dieu une chose déplaisante, cette chose deviendra une faveur pour toi.